L'Iran et l'AIOA ont publié une déclaration commune sur la coopération nucléaire. 4 militaires américains ont été blessés dans un affrontement avec les forces russes dans le nord de la Syrie. Et le Soudan a écarté toute normalisation avec le régime sioniste. C'était les titres. En voici le journal. L'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIOA, ont publié une déclaration commune sur la coopération nucléaire. L'AIOA et la République islamique d'Iran ont convenu de renforcer leur coopération et de renforcer la confiance mutuelle pour faciliter la pleine mise en œuvre de l'accord de garantie généralisée de l'Iran et de son protocole additionnel qui est appliqué à titre provisoire par l'Iran depuis le 16 janvier 2016. Après d'intenses consultations bilatérales, l'Iran et l'AIOA sont parvenus de bonne foi à un accord sur la résolution des problèmes d'application des garanties spécifiées par l'AIOA. À cet égard, l'Iran fournit volontairement à l'AIOA l'accès aux deux sites spécifiés par l'AIOA et facilite les activités de vérification de l'agence viennoise pour résoudre ces problèmes. Les dates d'accès à l'AIOA et les activités de vérification ont été convenues. Les activités de vérification de l'AIOA se dérouleront conformément à l'accord de garantie généralisée de l'Iran CSA et à son protocole additionnel PA et à la pratique de vérification standard de l'AIOA telle qu'elle est mise en œuvre pour tous les États ayant des CSA et des PA sur un pied d'égalité et sans discrimination. Les deux parties reconnaissent que l'indépendance, l'impartialité et le professionnalisme de l'AIOA demeurent essentiels dans l'exécution de ses activités de vérification. L'AIOA continuera de prendre en considération les préoccupations de l'Iran en matière de sécurité en protégeant toutes les informations confidentielles relatives aux garanties conformément au statut de l'AIOA, aux dispositions pertinentes de la CSA et du PA et au régime, aux normes et aux procédures de confidentialité établies par l'AIOA, lit-on dans le communiqué. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à la tête d'une délégation, est arrivé lundi soir à Téhéran. Il s'est entretenu avec le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Ali Akbar Salehi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, et le président iranien, Hassan Rouhani. Le chef de l'administration douanière de la zone économique spéciale de Parsud, Amir Abbas Ahmadi, a déclaré que l'exportation de produits non pétroliers de Parsud, malgré les restrictions et les sanctions américaines au cours des 5 premiers mois de cette année, s'élevait à 7,5 millions de tonnes pour une valeur de 1,813 milliards de dollars. Le volume total des exportations au cours des 5 premiers mois de 2020 s'est élevé à plus de 7,5 millions de tonnes de produits, dont le méthanol, le propane, le butane, le polyéthylène léger et lourd, les condensants de gaz, l'ammoniac, le soufre, le styrène, le pétrole brut, etc., a-t-il noté. Ces marchandises étaient exportées vers divers pays, dont le Pakistan, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, le Japon, l'Indonésie, la Turquie, l'Italie, l'Allemagne, le Qatar, l'Égypte et le Koweït, a dit le chef de l'administration douanière de la zone économique spéciale de Parsud, Amir Abbas Ahmadi. 4 militaires américains ont été blessés dans un affrontement avec les forces russes dans le nord de la Syrie. Les responsables américains ont confirmé le 26 août que les membres de l'équipage à bord d'un véhicule blindé américain avaient été blessés après avoir heurté un convoi militaire russe lors d'un incident dans le nord-est de la Syrie plus tôt cette semaine. Selon différentes sources médiatiques américaines, citant des responsables américains anonymes, l'incident s'est produit lorsqu'un véhicule russe est entré en collision avec l'un des véhicules blindés américains. Elle révèle par ailleurs que suite à la collision, 4 soldats américains ont subi des blessures de type commotion cérébrale. D'autres médias affirment que plusieurs soldats américains ont été blessés. Après l'incident, une série de vidéos a été publiée par les Russes sur les réseaux sociaux. Les vidéos laissent voir un champ de bataille moderne opposant les forces russes et américaines les unes aux autres. L'une des vidéos partagées montre le déploiement des véhicules blindés russes et américains dans la localité de Hasak. Les vidéos montrent entre autres un hélicoptère de combat Mi-8AMTSHIP des forces aérospatiales russes effectuant une manœuvre à basse altitude au-dessus pour disperser les troupes américaines qui tentent de bloquer une patrouille russe dans la région. Le Soudan a écarté toute normalisation avec le régime sioniste en disant que cette question ne serait traitée qu'après la fin de transition à Khartoum, prévue en 2022. Le premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, a déclaré au secrétaire d'État américain Mike Pompeo que son gouvernement n'a pas de mandat pour normaliser les relations avec Israël. Aucune décision dans ce sens ne sera prise avant la fin de la transition politique en 2022, a rapporté le porte-parole de l'exécutif Faisal Saleh. Moins de deux semaines après la reconnaissance d'Israël par les Émirats arabes unis, la visite de Mike Pompeo à Khartoum mardi 25 août était la deuxième étape d'une tournée moyen-orientale visant à convaincre davantage de pays arabes de normaliser leurs relations avec le régime sioniste. Lors des discussions, Abdallah Hamdok a précisé que le gouvernement de transition n'a pas de mandat au-delà de ses tâches pour décider de la normalisation avec Israël. Les chefs des gouvernements éthiopiens et soudanais sont convaincus d'une issue favorable au pourparlers sur la gestion du grand barrage sur le Nil. Dans un communiqué commun, les deux hommes ont affirmé que les négociations allaient réussir et que toutes les parties se sont gagnantes. En visite dans la capitale soudanaise, Khartoum, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré que son homologue Abdallah Hamdok se rendrait en Éthiopie le mois prochain pour visiter le barrage. Nous devrions travailler ensemble. Nous devons nous concentrer sur la paix et le développement, ainsi que sur des solutions gagnant-gagnant dans chaque cas. Il faut discuter entre les deux pays ainsi qu'avec les autres pays voisins. Plus long fleuve du monde, le Nil fournit de l'eau et de l'électricité aux 10 pays qu'il traverse. Ses principaux affluents, le Nil blanc et le Nil bleu, convergent dans la capitale soudanaise Khartoum avant de s'écouler vers le nord en passant par l'Égypte pour se jeter dans la mer Méditerranée. Une mission conjointe de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations unies s'est rendue ces derniers jours en Guinée dans l'objectif de relancer le dialogue entre les différents acteurs politiques du pays à moins de deux mois de l'élection présidentielle fixée au 18 octobre. Les émissaires ont rencontré différentes formations politiques, tant du pouvoir en place que de l'opposition réunie au sein du Front national pour la défense de la Constitution FNDC. Une rencontre avec les membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a également eu lieu. Ces entrevues ont, selon certaines sources, principalement porté sur les conditions d'organisation de la future élection présidentielle. Le 6 août dernier, le président sortant de la Guinée, Alpha Condé, a été désigné par son parti, le RPG Arc-en-Ciel, pour briguer un troisième mandat à la tête du pays. Prenant bonne note, il ne s'est cependant pas encore prononcé sur la question. Selon les dispositions de la Constitution guinéenne, le nombre de mandats présidentiels est limité à deux. Mais d'après les partisans du président sortant, l'adoption en mars dernier d'une nouvelle loi fondamentale lors d'un référendum boycotté par l'opposition remet les compteurs à zéro, lui permettant de briguer un autre mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Soupçonnant depuis des mois le président sortant Alpha Condé de vouloir briguer un troisième mandat, les principaux partis d'opposition et des organisations de la société civile, regroupées au sein du Front national pour la défense et la Constitution FNDC, ont organisé en octobre 2019 une série de manifestations qui se sont soldées par des dizaines de morts parmi les manifestants. Et pour fermer le journal, la Chine a lancé mercredi 26 août au matin deux missiles, dont un anti-porte-avions vers la mer de Chine méridionale, envoyant ainsi un avertissement clair aux États-Unis. Les missiles ont été tirés un jour après que la Chine a déclaré qu'un avion espion américain U-2 était entré sans autorisation dans une zone d'exclusion aérienne lors d'un exercice naval chinois à tir réel dans la mer de Bohai, au large de sa côte nord. L'un des missiles, un DF-26B, a été lancé depuis la province nord-ouest de Jinghai, tandis que l'autre, un DF-21D, a décollé de la province de Zhejiang à l'est. Les deux ont été tirés dans une zone située entre la province de Hainan et les îles Paracel, selon South China Morning Post. Le DF-26 a une portée de 4000 km et peut être utilisé dans des frappes nucléaires ou conventionnelles contre des cibles terrestres et navales. Le DF-21 a une portée d'environ 1800 km. Les médias d'État décrivant le plus avancé de la série, le DF-21D, comme le premier missile balistique anti-navire au monde. Une source proche de l'armée chinoise a déclaré à South China Morning Post que les tirs de missiles visaient à améliorer la capacité de la Chine à empêcher d'autres forces d'accéder à la mer de Chine méridionale, une région contestée. C'est la réponse de la Chine au risque potentiel posé par l'arrivée de plus en plus fréquente d'avions de combat et de navires militaires américains en mer de Chine méridionale, a déclaré la source. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Incident sécuritaire bis Israël-Hezbollah, des révélations choc. C'est le titre du commentaire politique. Le 27 juillet, quand l'entité sioniste livrait à ridicule une mise en scène sécuritaire en tirant sur des fantômes qu'elle prenait pour des commandos du Hezbollah, marquant là l'un des revers les plus cuisants de ces unités de renseignement si copieusement implantées à la frontière avec le sud du Liban, un communiqué du Hezbollah publié tard dans la journée tirait au clair le ridicule manège sioniste, soulignant qu'aucune opération du Hezbollah n'a eu lieu. Or, cela n'a pas été le cas pour ce nouvel incident sécuritaire éclaté, selon la presse israélienne mardi, toujours à la frontière avec le Liban, et qui a débouché sur des tirs paniqués de fusées éclairantes, voire des bombes au phosphore israéliennes, contre le territoire libanais, combiné au raid d'hélicoptères visant le siège d'une ONG que l'armée sioniste, de moins en moins crédible dans ses annonces, dit être un poste de renseignement du Hezbollah. L'incident sécurité bis a-t-il été une riposte du Hezbollah qui aurait tourné court comme le prétend Israël? Rien n'est moins sûr. Des sources bien informées évoquent un scénario US-Israël concocté dès le lundi 24 août lors d'entretiens Pompeo-Netanyahu à Rots occupé qui vient de lamentablement échouer. L'objectif non déclaré israélo-américain est de créer un nouvel incident de sécurité aux frontières sud du Liban, dans le strict objectif de changer la donne militaire avec, cette fois-ci, pour cible la présence onusienne. En effet, cela fait des mois que la force de la FINUL est la cible de harcèlement conjugué US-Israël, exigeant d'elle une reconversion de sa mission et sa transformation en milice chargée de fuyer les villages du sud libanais à la recherche des silos aux missiles du Hezbollah. Le fait qu'après la double explosion de Beyrouth, l'axe US-Tel Aviv revienne à cette option, cela prouve que l'attaque du 4 août n'a pas non plus apporté les effets escomptés. Toujours est-il que l'apparition du nom de l'ONU dans le récit colporté de l'incident sécuritaire du 25 août par l'armée israélienne, où cette dernière prétend avoir été la cible des tirs depuis les positions de la FINUL, en dit long sur les intentions US à Israël. Mais tout ceci était sans compter avec la puissance du Hezbollah qui, depuis le 27 juillet, a prouvé au monde entier à quel point il maîtrise le terrain de renseignement et comment il se joue de tout appareil de renseignement israélien dans le cadre d'une logique anticipatrice. Juste avant que le scénario militaire Pompeo-Netanyahu ne soit déclenché, le Hezbollah procède dans la nuit de mardi à mercredi 26 août à plusieurs cybermanœuvres qui tiennent lieu d'avertissement et qui ciblent le commandement sioniste du front nord et, selon la source, arrivent droit à la chambre du premier ministre israélien. Dès lors, l'armée israélienne entre dans un état d'hystérie et commence à tirer à coups d'artillerie lourde et à lancer des bombes fumigènes et éclairantes, croyant avoir entendu des tirs d'un commando cherchant à s'infiltrer en Israël. Ces hélicoptères s'acharnent alors sur les locaux de l'ONG qu'ils croient être un poste de renseignement de la résistance. Pas de tir depuis le territoire libanais contre Israël, affirme toutefois à l'aube du mercredi 26 août la mission onusienne. Alors, un deuxième scénario US-Israël visant à changer la règle d'engagement qui vient de tomber à l'eau, visiblement. Israël a-t-il compris le cybersignal que le Hezbollah a envoyé au cœur même du commandement du front nord et par là le fait qu'aucun de ses agissements n'échappe aux yeux perçants des unités du renseignement de la résistance? Il a l'intérêt.